C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin, le ministre Lionel Carman qui ordonne la tenue d'une enquête administrative. Et il y a aussi une deuxième enquête menée par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sur ce qui a été révélé dans la presse hier, c'est-à-dire l'existence de salles de confinement, de retrait. Ça ressemble davantage à des cellules et on place des jeunes de 9-10 ans dans ces endroits. Est-ce que les droits des enfants ont été bafoués? Puis comment ça se fait que ça existe des affaires comme ça? Nathalie.
Bien, tout d'abord, je vois pas comment on pourrait prétendre que leurs droits sont respectés alors qu'on les place en isolement dans une cellule qui s'apparente à celle qu'on a dans nos centres de détention. Et bravo d'ailleurs à la presse d'avoir publié cette affaire. Et j'ajouterais que c'est indigne de traiter en 2024 des enfants comme s'ils étaient des criminels. Parce que moi, lorsque j'ai vu ces images, cette cellule dans la presse, ces cellules dans la presse, c'est l'image qui m'est venue en tête, comme probablement plusieurs lecteurs lorsqu'ils ont pris connaissance de cet article. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on envoie un enfant de 9 ans dans une cellule de ce type-là? Je serais intéressant d'avoir des réponses très, très précises là-dessus. Mais on dit qu'il y a un intervenant qui est tout près de l'enfant. Mais comment voulez-vous qu'un enfant, peu importe son âge, là, reprenne son calme, sa confiance dans un lieu qui est aussi peu invitant qu'une cellule froide et impersonnelle? Alors, cette histoire, malheureusement, elle se répète. Le ministre a demandé une enquête administrative, la commission des droits de la personne également. Mais la commission des droits de la personne et de la jeunesse a publié un rapport de ce type-là en 2017. Alors, le recours à de l'isolement, à de la contention, c'est pas nouveau dans les centres jeunesse au Québec, mais ce qui est extrêmement déplorable, c'est qu'on ne semble pas tirer des leçons de ce qui s'est passé, dans le passé, justement. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que des histoires d'horreur, il y en a eu. En Outaouais, par exemple, en 2014-2015, les centres jeunesse là-bas ont connu une augmentation fracassante du nombre d'isolement, du nombre de contentions. Et c'est très clair dans la loi. Ce qui est dit, c'est que ce type de mesure doit être exceptionnel, minimal exceptionnel. Là, on compte tenu de l'augmentation dans les trois types de mesures qui sont utilisées, il y a une croissance importante. Alors, on peut pas dire qu'on l'utilise, on semble ne pas les utiliser de manière minimale exceptionnelle. Puis je reviens à ta question, Paul. Est-ce que les droits de ces enfants ont été bafoués? Ben oui, les droits de ces enfants ont été bafoués. Le droit, entre autres, à l'intégrité et la liberté de leur personne. Ça, c'est deux droits fondamentaux qui sont garantis par la Charte, effectivement, qui sont bafoués lorsqu'on les traite de cette manière. Parce que ce qui est fâchant, c'est que il y a trois choses, en fait, qui sont fâchantes. C'est le lien dans lequel les enfants, le type de cellule dans lequel les enfants, les adolescents sont enfermés, les raisons pour lesquelles on les envoie en cellule, souvent pour des pécadilles, puis le nombre de fois où le centre jeunesse de Laval a recours à ce type de mesures. Alors oui, tout ça, c'est extrêmement révoltant.
Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que oui puis non. Premièrement, c'est vrai que quand tu vois la photo de la place, là, pas juste la cellule, c'est une polyvalente, cette affaire-là. C'est en béton, bord en bord. C'est là. Puis ça, c'est pas des contrevenants. Là. C'est pas des jeunes qui ont été condamnés par le tribunal de la jeunesse. Ce sont des jeunes qui viennent de familles où il y avait des problèmes. C'est pas une place pour garder des enfants qui ont besoin d'amour, de chaleur, de convivialité, de contact avec la nature, tout ça. Mais voir que ça, c'est l'élément qui nous révèle que ça va pas à la DPJ, voyons donc. Premièrement, cette cellule-là, la raison pour laquelle elle est utilisée, les portes ouvertes avec un intervenant, là, comme l'a précisé Mme Lemay, la directrice de la DPJ, c'est parce que il y a une unité à côté qui normalement sert à ça, puis là, elle a servi à mettre d'autres enfants parce qu'il y a une augmentation de la demande. Il y a une deuxième unité qui aurait dû servir à ça, puis elle n'a pas été ouverte parce qu'il y a eu, semble-t-il, un cas de maltraitance et que depuis ce temps-là, elle est fermée pour des raisons légales. C'est-à-dire qu'on attend de prendre les empreintes, faire un sketch des lieux, etc. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Comment ça que la justice, elle bouge à cette vitesse-là, à une lenteur extraordinaire, pendant ce temps-là qu'on met des enfants dans un lieu où il n'aurait pas dû être, on s'entend. Mais qui est coupable là-dedans? Premièrement, c'est chacun des auditeurs qui est coupable. Parce que l'an passé, la DPJ a reçu 12 millions pour bonifier les services. Pendant ce temps-là, nous autres, les auditeurs, on a reçu 7,4 milliards de dollars en retour d'impôts. Je peux te dire que le sac de Doritos supplémentaire qu'on va s'acheter avec ce 7,4 milliards de dollars-là, il va goûter le vinaigre en sacrament. Parce que c'est chacun des enfants qui souffrent pendant ce temps-là. Ensuite, la justice, je l'ai dit pourquoi, ou la police, je sais pas lequel des deux qui est responsable d'avoir isolé une aile complète. Ensuite, le syndicat qui a fait déclencher l'affaire puis qui a dit « au secours, ça va donc pas bien ». Pourquoi tu penses que dans un des locaux, on n'a pas construit une espèce de cabane rigolote, amusante, face à la fenêtre avec un sofa? On aurait pu appeler des bénévoles pour construire ça. Parce que le syndicat veut pas. Parce que le syndicat refuse que, peut-être pas ce syndicat, mais le syndicat qui s'occupe de la maintenance de l'établissement refuse que quiconque porte la main sur un marteau. C'est pas juste la responsable de la DPJ. Puis chacun d'entre nous qui avons été appelés, je sais pas combien de fois, à participer à la fondation de la DPJ, on a donné combien? C'est 2,8 millions, si je me rappelle bien, alors que Justine, c'est 500 millions. Puis à part de ça, chacun d'entre nous qui a été appelé à donner du bénévolat, on a fait quoi comme bénévolat? Fait que moi, de dire, l'État devrait s'en occuper, puis quand l'État s'en occupe pas, ben c'est un maudit problème. Mais laisse-moi dire que les gestionnaires qui s'occupent de cette affaire-là, ils sont aux prises avec un conundrum de fils d'araignées attachés les uns avec les autres, que tu mets la main sur un, t'es pas capable de tirer sur un fil parce que ça tire 18 autres fils.
Mais ce que ça démontre, Luc, c'est que les centres jeunesse, un, sont les enfants pauvres du réseau de la santé et des services sociaux. Si on a 840 millions de budget à dépenser pour rénover le toit du stade, il me semble qu'on devrait prioritairement avoir des centres jeunesse qui ressemblent à autre chose que des prisons. Ce dossier-là devrait être traité en priorité. Puis encore une fois, c'est extrêmement dommage que ça se retrouve dans les médias pour qu'on réagisse.
Mais je vais dire une chose, OK? Parce que j'ai une popée d'expérience dans ça, là. Il y a 20 ans, j'ai tourné dans des centres jeunesse où il y avait ces salles d'isolement. Il y a 20 ans. Puis on nous disait, très rare qu'on les utilise, etc., etc. J'ai amené la ministre responsable de la DPJ de l'époque, Marguerite Delisle, dans une salle d'isolement, puis j'ai fermé la porte.
Oh!
Elle a essayé de sortir après moins d'une minute parce qu'elle dit « je me sens pas bien ». Et moi, j'avais dit « si vous... »
Tu tenais la porte l'autre bord?
J'ai juste fermé la porte. Mais j'ai dit « si vous, vous sentez pas bien, pensez à un kid. Je peux comprendre qu'il faut... » Bon, je suis allé visiter un centre qui était un peu au nord du métropolitain. Je pense que c'est de la jeunesse, mais je suis pas certain. Là. Luc, il y avait pas eu de peinture depuis je sais pas combien de temps là-dedans. C'était il y avait des classes pour des tout petits, des enfants de 5 ans, puis c'est des enfants en protection là qui étaient dans le sous-sol du centre. Ça n'avait aucun crise de sens, OK? Puis à chaque fois que ça arrivait, là, puis que tu disais au gouvernement, mais vous faites quoi avec ça? On s'en vient.
Mais là, Paul.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une pratique.
Mais oui. Mais en plus.
De gérer les affaires.
Depuis 25 ans. Et là, ça va empirer.
Et nommer des enquêteurs pour étirer
ça
dans le temps.
Voilà. Là, le ministre enquête. Enquête sur qui? Sur le ministre. Je veux dire, ce que tu viens de décrire là, c'est une situation qu'André Lebon a décrit aussi, que Régine Laurent a décrit aussi. Donc, une situation où ça traîne depuis des années, puis on fait rien. Puis là, ça va empirer. Parce que, vous avez vu à la Cour suprême, les Premières Nations ont obtenu le droit de gérer elles-mêmes leurs unités de DPJ. Ce qui veut dire qu'il va avoir une augmentation extraordinaire du coût de gestion de la DPJ dans les Premières Nations, parce que là, tu ne seras plus géré de façon centralisée, ça va être dans chacune des nations. Sans augmentation de budget. Ils vont le prendre ailleurs. L'augmentation, le budget qui s'en vient, là, le ministre nous a averti à l'avance, il n'y aura pas de nouveaux projets, il n'y aura pas de nouveaux développements. Là, il va mettre en exergue un projet DPJ, parce qu'il vient de sortir l'histoire dans les journaux, et puis c'est pas une bonne raison qu'elle soit sortie pour ça. En exergue, un projet, oui, dans le budget des investissements, on a prévu qu'on allait mettre 300 millions sur 20 ans pour la rénovation des centres. Mais il n'y aura pas d'amélioration majeure du taux de roulement d'employés, parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Une personne on aurait pu dire, OK, je te prends par la main, viens-t'en, on s'en va dans un coin qui n'est pas fait pour ça, mais on s'en va dans un coin qu'on a aménagé, tu restes avec moi puis tu bouges pas. Mais le taux de roulement des employés est extraordinairement élevé. Il n'y a pas d'attachement des enfants vers beaucoup de... Ils font bien leur travail, mais ils stannent. Ils stannent, puis le salaire n'est pas assez élevé, puis ils s'en vont. Il y a un taux de roulement énorme. Alors, tous ces éléments-là font que ça ne changera pas.
Ouais, je suis pas très optimiste pour le futur également parce que pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, tu parles de pratique, Paul. Puis je me souviens de ton documentaire auquel tu as fait référence, l'exemple de Marguerite Delisle. Elle était très traumatisée hein, de son expérience. Elle était responsable de protection de la jeunesse. Là, puis on en a entendu parler à l'époque. Je peux te le dire là. Ça avait été très difficile pour elle.
Écoute, ce que j'ai fait de pire, là, tu vas dire c'est démagogique. J'ai montré les images du centre de détention, la Macasa, où t'as des prédateurs d'enfants qui sont détenus là. Ça a l'air des beaux duplex. Ils ont leurs petites aires communes. C'est flambant c'est neuf. Puis là, tu dis, tu mets l'agresseur là-dedans, puis tu mets la victime de ce côté-là.
OK.
Exact.
Ben,
ouais.
Tu sais, c'est ça, là.
Oui. Ouais. Mais en fait, c'est tout sous ce débat-là qui dure depuis des années, là, depuis 20-25 ans, pose notre rapport. Quel est le. Notre lien de société à nos enfants. Puis après ça, on va nous faire croire qu'on aime nos enfants, mais on peut avoir des doutes très, très sérieux.
Nathalie, moi, j'ai une question à te poser en finissant. Là.
Ouais.
Le 7,4 milliards de retour d'impôts, là, celui-là, puis il y en a qui l'évalue à 9 milliards sur 4 ans.
Ouais. Ouais.
T'es-tu d'accord avec moi qu'on n'aurait pas dû l'avoir?
Ben, je suis d'accord avec toi, Luc, pour dire qu'il y avait d'autres besoins très urgents que celui d'envoyer, de soulager le portefeuille des Québécois. Okay. Mais la politique, mon cher Luc, ça crée toutes sortes de frustrations, dont celle que tu exprimes ce matin.
On fait une pause au retour. On va parler d'éducation, les syndicats d'enseignement qui mènent un combat pour améliorer la composition des classes. Est-ce que c'est un vrai problème, un véritable enjeu?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, les syndicats de profs ont mené un combat durant le dernier conflit de travail pour améliorer la composition des classes, les fameux ratios, par exemple. Est-ce que c'est un enjeu réel? Luc?
Ben, on se le demande, parce que là, il y a pas mal d'indices qui commencent à se cumuler depuis des années. Moi, j'ai été mis au courant de ces indices-là récemment, grâce à un article de Francis Veil, mais hier. Donc, mais quand même, c'est depuis un moment que je me pose la question, parce que, tu te rappelles-tu, Nathalie, aussi, d'une convention collective, on avait dit, ouais, les classes qui ont 50% de plus de cas particuliers vont avoir le droit à une augmentation de salaire, ou alors, on va, si les moyens, on va faire une autre classe. Mais tu as dit 50%, ça doit être des classes d'immigration massive avec francisation, tu sais, c'est un cas particulier. Non! Non! Il semblerait que les professeurs poussent pour avoir des diagnostics qui, dans bien des cas, atteignent 40% de la classe. Et là, il y a plusieurs études, puis celle de Francis Veil nous a quand même pas mal shaké hier, des statistiques qui montrent que, regarde, oui, au Québec, on a 4 à 5 fois plus, des fois 10 fois plus que d'autres provinces, soit sur le Ritalin, soit avec des diagnostics, etc., 10 fois plus, là, c'est énorme. Puis, quand tu regardes, OK, ça peut pas être lié au fait que on a des classes juste avec des bombes parce qu'on enverrait tout le monde au privé, parce qu'au primaire, on envoie moins au privé que dans les autres provinces. Il a fait un beau tableau, là, puis ça vient de Statistique Canada. On est en dessous de la moyenne nationale en termes de fréquentation du privé. Ensuite, est-ce que c'est parce qu'on a plus de cas de santé mentale? Ah ben non, on est la province où il y en a le moins. Par rapport aux autres problèmes mesurés par Statistique Canada, là. 5,5% en Colombie-Britannique, 2,1% au Québec. Ensuite de ça, troisième tableau, est-ce que c'est parce qu'on a plus de diagnostics d'anxiété? Non! On est encore là, dans le bas du tableau, 4% en Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard à peu près pareil, l'Alberta 3,7, nous autres 3. Il y a juste le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan qui en ont moins que nous. Donc, toutes les statistiques indiquent qu'on n'a pas de cas grave plus que les autres. Ensuite de ça, tu cherches un peu, puis là, il y a une chercheuse, Marie-Christine Brault, qui a fait à l'Université Laval, a fait une étude en 2018. Donc, 18% des jeunes Québécois avaient reçu un diagnostic de TDAH. En Belgique, 2,5%. L'écart est énorme. Puis son étude arrivait à la conclusion qu'il y avait un surdiagnostic. Et comment est arrivé au fait qu'il y avait un surdiagnostic? C'est qu'elle s'est rendue compte que c'était très différent selon les régions. Il y avait des régions où c'était juste 3%, des régions où c'était 15%. Donc, un autre constat d'une autre étude qui dit il n'y en avait pas de surdiagnostic dans les années 2000. Puis tout à coup, il rentrait un formulaire. Puis ce formulaire-là s'est traduit en une augmentation massive des surdiagnostics. Et donc, la réponse, c'est sans doute qu'il y a un surdiagnostic. C'est sans doute qu'on évalue à des nombres absolument stratosphériques le nombre d'enfants qui ont vraiment des problèmes de comportement, d'apprentissage, de concentration, à cause de la façon d'évaluer.
Nathalie?
L'enjeu est réel, puis c'est un enjeu complexe. Moi, ben, comme tu l'as dit, Luc, là, je vais simplifier, là, puis je ne vais pas décourager Luc et Paul, mais ça fait date pas d'hier qu'on parle de cet enjeu-là. En 2010, le gouvernement de Jean Charest se préoccupait de cet enjeu. Ça fait 15 ans, là, et peut-être un peu plus qu'on parle de ça. En fait, le premier grand enjeu, c'est celui touchant les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, les EHDAA. Dans l'article de Vice, 2013, là, on fait état de chiffres. Ben, en fait, ces élèves sont en augmentation depuis 2013. Et la solution, malheureusement, facile pour bien des écoles, c'est d'expulser ces enfants qui sont devenus trop lourds pour le personnel enseignant. Alors, on dénonce la lourdeur des cas, le manque de ressources, sans jamais, puis ça c'est mon grand malaise, sans jamais se questionner sur la responsabilité de l'école. On a une loi sur l'instruction publique qui, à chaque jour, en fait, à chaque fois qu'un élève est expulsé, un élève EHDA, à chaque fois qu'il est expulsé de l'école, ben la loi sur l'instruction publique n'est pas respectée. Alors moi, je me demande, est-ce que le problème, c'est pas plutôt l'école? Parce qu'on met une énorme responsabilité sur le dos des enfants. Et ça, c'est un très grand malaise que j'ai, parce que ces enfants-là, on les pointe du doigt en disant, ben, c'est toi le problème. Si tu ne fais pas d'un petit case, ciao, bye, là. C'est comme on n'a pas tout ce qu'il faut pour répondre à tes besoins. Donc, on expulse ces enfants-là de l'école. L'autre grand enjeu, puis tu as référé également, Luc, c'est celui touchant le surdiagnostic. Au secondaire, il y a le tiers des enfants des élèves au secondaire qui ont un plan d'intervention. C'est énorme, là, énorme. En 2011-2012, il y avait un peu plus de 87 000 enfants ou jeunes qui avaient un plan d'intervention. J'ai enfants au secondaire, mais enfants adolescents. Alors que dernièrement, le 2021-22, là, c'est 121 000. Et les profs le disent, il y a trop de plans d'intervention au secondaire. Ça devient extrêmement difficile à gérer. Alors, on a un méchant problème de société sur les bras. Parce que le premier enjeu, celui qui touche les enfants EHDA, ce grand enjeu pose un autre grand dilemme comme société. Est-ce qu'on retire ces enfants-là des classes régulières? Puis est-ce qu'on revient à la formule d'avant le grand mouvement d'intégration de ces enfants dans les classes régulières? Ou encore, ben on conserve la situation actuelle en tentant de donner davantage de ressources au personnel enseignant. Puis l'autre chose, pour ce qui est du surdiagnostic, on va-tu finir par, à un moment donné, comprendre que ça n'a pas de bon sens? Ça n'a aucun bon sens, là. Les élèves québécois, là, aux jeunes québécois, prennent tellement de Ritalin comparé à d'autres enfants sur la planète. On a un méchant problème, puis on dirait qu'il n'y a personne qui veut admettre qu'on a un problème. Il y a des gens qui le dénoncent, entre autres, je pense à Dr. Lamy, là, que tu as reçu à ton micro sur son dernier livre, Paul, qui est chroniqueuse à l'émission, qui dit, elle, voyons donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos enfants? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi notre problème dans notre société de vouloir parquer nos enfants dans le coin de la classe? Puis, sais-tu quoi? Tu vas être gentil, tu vas être poli, tu crieras pas trop fort, tu courras pas, tu sais.
C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu établis un corridor, puis les enfants qui sont à l'extérieur du corridor, ils sont considérés comme étant des enfants qui ont des difficultés. Ça, c'est un. Donc, ça prend des enfants là, qui sont dans le moule. On va dire, est-ce que c'est un déficit d'attention ou c'est juste un enfant qui est distrait? Ça peut arriver qu'un enfant soit distrait, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'un médicament. Et le fait qu'il y ait un diagnostic, ça permet d'aller chercher des ressources. Et donc, si tu n'as pas de diagnostic, tu as moins de ressources. Comme ta classe, il y a des enfants que ça peut être compliqué, turbulent, tout ce que tu veux, ben tu as intérêt à avoir le maximum de diagnostics parce que soit le maximum de budget pour des ressources. Fait que veux pas,
exactement,
on court
Paul,
après notre
et puis
cul,
là, penses-tu que la nouvelle convention collective va amoindrir cet effet-là?
Non.
Mais non, puisqu'ils ont obtenu l'idée selon laquelle, le concept selon lequel, à partir de 50% de diagnostic, tu vas avoir des ressources supplémentaires ou un salaire supplémentaire. Alors, évidemment que ça va continuer dans ce sens-là. Puis, beaucoup d'experts ont dit, ce n'est pas toujours des troubles d'attention. Souvent, c'est que de l'immaturité. L'écart d'âge dans une classe, il peut aller jusqu'à un an presque, là, en fonction de la date d'entrée. Et donc, il y a des enfants qui sont plus immatures que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus distraits que d'autres. Donc, immaturité, plus distraction. Et dès qu'un enfant va pas bien, on te dit tout de suite, ça doit être ça le problème. Je le sais, je l'ai vécu. Exactement ça. Puis après ça, l'enseignante de me demander, vous, M. Ferrandez, étiez-vous comme ça quand vous étiez petit? Ben, certain que j'étais comme ça. Elle dit, ah, moi, c'est génétique, hein. Non, c'est pas génétique, c'est un comportement. C'est pas dans le sang.
C'est un enfant, c'est comme, la dynamique que tu décris, Paul, elle est hautement préjudiciable pour nos enfants. Parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'enfants au Québec qui se retrouvent avec un diagnostic qui est faussé, qui ne correspond pas à leurs besoins. Tu peux bourrer un enfant de Ritalin d'antidépresseur, mais s'il y a des difficultés à la maison, s'il vit de la violence psychologique, si son parent est en dépression, c'est pas vrai que le Ritalin ou les antidépresseurs vont régler son problème. Fait que là, tu parles d'immaturité, mais c'est plus que ça, souvent. Tu sais, on creuse pas. La docteure Lamy, dans son dernier livre sur les enfants parfaits, écrit, lorsqu'un parent amène son enfant voir un spécialiste, il ne demande pas qu'est-ce qui se passe, mais plutôt qu'est-ce qu'il a, puis on présume qu'il y a un problème. Puis si un problème, ça prend un diagnostic. Alors, on s'est foutu dans la merde, les amis, comme jamais on s'est foutu dans la merde dans la société.
Moi, ce que je vois dans la société civile, tu sais, parce qu'à un moment donné, notre expérience du terrain a un sens aussi, là. Quand tu vas dans des clubs de sport, est-ce que tu vois des enfants se rouler à terre en s'arrachant les cheveux puis en faisant des crises? Quand tu vas au restaurant, tu vois tout ça. Dans les camps de vacances, tu vois tout ça. Dans les installations municipales, tu vois tout ça. Dans les piscines municipales, tu vois tout ça. Dans les gymnases, tu vois tout ça. Non! Mais comment ça se fait que, rendu dans les classes, il y en a 50% qui sont obligés de prendre des médicaments?
Mais non, mais c'est ça qui fonctionne pas. Écoute, combien d'enfants? Mais combien d'enfants ne peuvent plus jouer dans les cours d'école? Puis la pression que mettent les professeurs sur les parents. Du coup, Luc, tu as peut-être vécu ce moment-là un jour dans ta vie. Moi, ma sœur me racontait son garçon aujourd'hui qui a 13 ans. Un jour, l'enseignante lui dit, écoute, il est pas mal agité en classe. Ce serait intéressant qu'il puisse, vous pourriez regarder la possibilité qu'il soit médicamenté. Ma sœur a dit, non, oui, il n'y en a pas question. Calvaire, on peut plus laisser nos enfants être des enfants. Moi, je suis révoltée. Puis ça rejoint ce qu'on disait tantôt dans notre autre segment sur nos pauvres enfants qui se retrouvent dans les centres jeunesse, comme si ces pauvres enfants étaient tous de mauvais enfants. Au contraire, c'est des enfants qui ont besoin souvent de la base, être seulement ce qu'ils veulent être sans rentrer nécessairement dans un maudit moule que leur impose notre société, notre système scolaire.
C'est merci à tous les deux. On s'arrête là-dessus.
C'est 23.